sur Radio B, Résonance, Alain Goudard. Bonjour et bienvenue à tous. Résonance, l'émission radiophonique de Résonance Contemporaine, pôle ressources départementales et régionales culture et handicap, musique contemporaine. Résonance, pour vous et avec vous, pour tendre l'oreille vers ce qui ne s'entend pas, regarder où il ne faut pas, ou ce qui ne se voit pas. Aujourd'hui, nous vous proposons le premier volet d'une série de trois émissions au cours desquelles nous irons ensemble à la rencontre de trois artistes, trois projets, trois territoires, trois établissements médico-sociaux constituant les acteurs majeurs de la troisième édition de Naturellement, Art, Nature, Singularité, une manifestation culturelle transfrontalière qui incite à la rencontre et au respect des différences. Naturellement, Art, Nature, Singularité s'inscrit dans un programme franco-genevois sur les thèmes de la culture et du handicap intitulé Culture réunie. Il a pour objectif de permettre l'accès à la culture à de nouveaux publics et en particulier les publics souvent éloignés de la culture, personnes en situation de handicap, personnes désavantagées socialement. En favorisant les échanges transfrontaliers, cette manifestation permet une culture partagée au travers d'un réseau de coopération impliquant des structures de part et d'autre de la frontière. Ce réseau se conjugue en trois territoires, l'Ain, la Haute-Savoie et Genève. Chaque territoire implique un artiste, une institution spécialisée dans le domaine du handicap et un site d'accueil et d'installation de l'œuvre. Naturellement, Art, Nature, Singularité a comme enjeu fort la rencontre d'artistes en résidence interagissant avec des personnes en situation de handicap et débouchant sur une installation artistique dans un site naturel remarquable. Sa programmation originale s'adresse donc à tous les amateurs de promenades culturelles et transfrontalières, que ce soit en juin prochain au jardin de la Fondation Trajet, situé dans la campagne genevoise sur la commune de Troinex, ou à mi-septembre à Coponex, au pôle Landart départemental de ESAT de la ferme de Chosal en Haute-Savoie, ou comme en ce mois d'avril à Bourg-en-Bresse, dans le parc de la Madeleine, où est installée l'œuvre de Wilmanter, le murmure des feuilles. Résonance sur Radio B, troisième édition de Naturellement Art Nature Singularité, le murmure des feuilles, rencontre avec Wilmanter. Wilmanter, que j'ai le plaisir d'accueillir à ce micro, bonjour.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue dans cette émission.
Merci.
Donc cette édition, Naturellement Art Nature Singularité, accueille trois artistes sur trois sites, trois territoires. Oui. Bon, alors on va citer les deux autres confrères qui participent également à ce projet, Marc Limousin, qui lui est invité sur le pôle Landart Art départemental de la ferme de Chosal en Haute-Savoie.
Oui.
Il va amener une création qui va s'appeler Nuage. Alors, une toute autre manière, on en parlera de la thématique de l'air qui encadre aussi cette troisième édition. Et puis, on évoquait la Suisse, on évoquait les jardins de la Fondation Trajet, notamment sur la commune de Troinex en Suisse.
Oui.
Eh bien, c'est Paul Payet, qui lui aussi va imaginer, on n'a encore pas le titre de l'œuvre, mais qui va imaginer aussi quelque chose sur ce territoire, sur ces jardins. D'accord. Et puis il y a vous, Wilmenter, donc sur le site du parc de la Madeleine à Bourg-en-Bresse, en plein cœur de la cité, tout proche pour nos amis auditeurs du nouveau palais de justice, avec une installation à la fois plastique et sonore que vous avez appelée le murmure des feuilles. Alors, je voulais peut-être un peu commencer là notre entretien, Wilmenter, oui, en disant que vous faites partie aussi de ces artistes pour qui l'environnement prend une place importante, pour ne pas dire plus que centrale, dans, oui, votre travail. Vous installez souvent vos sculptures sonores dans des écrins de verdure, et puis, bien sûr, ça offre à ces réalisations, à ces œuvres, des cadres valorisants, aussi bien la poésie de ces gestes artistiques. Alors, peut-être, qu'est-ce qui vous a conduit finalement à vous ancrer dans une démarche de cette sorte, Wilmenter ?
Oui, c'est une grande question, ça. Mais,
j'imagine.
J'essaierai de le répondre. Mais, donc, pour moi, c'était évident depuis longtemps que le lien entre l'art et la nature nous ramène à l'essentiel à un certain niveau. Donc, par exemple, moi, j'ai toujours habité à la campagne depuis enfance. Donc, j'ai pas une expérience typique moderne, en fait, parce que, évidemment, la plupart du monde maintenant, c'est en
c'est
ville.
Ça. On et est dans l'urbanisme, l'urbain au maximum. Et
oui,
l'expérience campagnarde est plus, moins habituelle, on va dire, pour certains.
Oui, c'est ça. Donc, mais ce que j'ai toujours bien aimé, c'était juste apprécier la nature à peu près comme c'était l'art aussi. C'est l'idée que il y a la musique partout. En fait, il y a l'art visuel partout aussi. Et puis, pour moi, il n'y a pas vraiment la frontière entre les créations humaines et l'environnement. Donc, et pour moi aussi, c'est bien lié avec l'état de l'art contemporain pour moi aussi. Donc, pour moi, c'est pas essentiel qu'il y a un lien avec la nature dans les œuvres. Dans mes œuvres, il y en a souvent. Mais quand même, le fil le plus intéressant pour moi dans l'art contemporain et la musique contemporaine, c'est l'idée que c'est pas une œuvre séparée de l'environnement.
C'est ça.
C'est une œuvre liée avec le lieu où elle existe. Donc, et puis, et en ce cas-là, c'est pas seulement lié avec le lieu où il existe, mais c'est lié avec les gens qui le découvrent dans le lieu. Donc, il y a une partie de l'œuvre qui est créé par le public, leur écoute et dans leur perception de l'œuvre. Donc, sans la présence d'autres gens, l'œuvre est incomplète, en fait.
Voilà. Alors, j'aimais bien aussi, dans l'un des ouvrages qui rassemble aussi un peu vos différentes réalisations, pour reparler des éléments naturels, justement, sur lesquels, après, vous vous êtes intéressé. Je pense le bois, la pierre, la poterie, l'eau, etc. Vous écrivez, justement, au début des années 80, et là, vous êtes encore en Angleterre, tout près de Bristol.
Oui, oui.
Alors, pardon mon anglais, près de Watercatch.
Watercatch, oui, c'est ça. Vous prononcez bien.
Et là, comme vous le disiez là maintenant, vous êtes en pleine forêt, une vie dans la nature.
Ouais.
Et donc, du coup, il y a des nécessités toutes simples du quotidien qui font que régulièrement, on est obligé de s'approvisionner justement dans la forêt, en bois, notamment.
Ça. Oui, le bois. Oui.
Et puis, à un moment donné, le fait d'être dans cette relation à la fois quotidienne, mais de cette relation avec ce bois qui est là et qui va avoir aussi une utilisation particulière dans votre quotidien, il y a un intérêt qui se forge justement pour cette matière et ça devient un fil conducteur.
Oui, absolument. C'est les circonstances particulières parce que en fait, je ne dis pas que j'ai juste découvert le son et la musique comme ça.
C'est ça.
Parce qu'avant ça, j'avais
vous
bien une histoire dans le jazz contemporain et
voilà,
la musique
improvisée.
Vous
étiez improvisée déjà dans un musicien qui s'aventurait dans le type.
Oui, voilà. Mais c'est vrai que cette Watercatch Farm où j'ai habité pour 15 ans à peu près dans un village, ou non, c'était pas dans un village, c'était vraiment dans la campagne, mais pas loin de Bristol, en fait. Et là, oui, on chauffait à bois, et puis j'ai coupé le bois.
Ouais.
Et puis, j'ai remarqué quand je coupe le bois, c'était avant, j'avais pas une tronçonneuse à cette époque-là.
Donc,
je
l'ai coupé
la scie à la main.
La scie à la main.
Oui. Et puis, j'ai remarqué chaque fois que j'ai coupé un bout de bois, quand il tombait sur le sol, il fait un son musical, en
bien
fait.
Bien sûr, bien sûr.
Parce que j'étais sur un sol dur, en fait, c'était sur le béton, mais si on fait sur l'herbe, on l'entend pas. Mais donc, j'ai entendu une note claire de chaque bout de bois que j'ai coupé, et je me suis dit, oui, ok, je fais la musique pendant que je coupe.
Pendant que je scie.
Donc, je prends une pause de scier. Et puis, ça n'avance pas vite, le travail de scier, mais ça donne un plaisir personnel pour.
C'est certain.
Que j'ajoute à ce travail physique. Voilà.
Un peu quand on vous entend et justement dans cette écoute très attentive finalement, c'est-à-dire du coup, bien sûr, on évoquait l'attitude de musicien et en même temps le fait que le musicien peut aussi, dans son quotidien finalement, à force de s'approcher du son, d'être en relation avec celui-ci, il développe aussi une écoute maximale et qui fait qu'effectivement, quand je me mets à scier, j'entends quelque chose tomber et ça prend un autre sens. Ouais. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que quelque part, sans parler d'influence, mais peut-être d'état d'esprit, l'état d'esprit d'un John Cage, par exemple, c'est quelque chose qui rentrerait aussi en lien avec votre démarche. Donc, pour préciser pour nos auditeurs, dans les années 50-70, John Cage a repositionné sa posture de musicien, de compositeur sur notre rapport au son, aux objets, à la nature. Mmh. Voilà, cette relation aussi qu'on pouvait avoir à eux, ça fait partie aussi un peu des éléments pour vous.
Oui, absolument. C'est intéressant que vous évoquiez John Cage parce que, en fait, disons que j'ai apprécié John Cage petit à petit et maintenant je vois qu'il est très important dans mon histoire personnelle, mais quand même à un certain niveau je l'ai résisté aussi.
C'est ça.
Parce que je suis arrivé du monde de free jazz et musique improvisée, qui est une autre histoire.
Tout à fait.
Et puis dans cette musique, il n'y a pas l'aléatoire en fait, bien que ce soit improvisé, c'est très très ciblé en
très
fait,
ciblé finalement,
et très expressif au niveau personnel en fait. Et John Cage par contre, il a essayé d'éviter l'expression personnelle, c'est ça qu'il a détesté en fait.
Absolument, c'est ça qu'il a détesté effectivement.
Oui, c'est ça.
Pour recentrer l'individu sur autre chose que simplement sur, on va dire, parce que c'est pas forcément ça, mais quelquefois du verbiage un peu trop développé, et essayer de revenir à l'essentiel de ce que pouvait être ce rapport au son et la place simple finalement qu'il pouvait y avoir.
Oui, oui. Et John Cage, il a bien étudié la philosophie zen, en fait.
Aussi.
Et puis, il a cherché les moyens d'éviter l'ego. Mais bien sûr, lui, il avait un ego immense. Donc, c'est contradictoire. Donc, c'était quelqu'un qui était très, très ambitieux, très, très engagé à
très
sa
engagé.
Musique personnelle. Ouais. Il avait son message personnel qu'il voulait diffuser.
Diffuser. En fait.
Donc, on ne pourrait pas dire que c'est quelqu'un sans ego. Mais quand même, c'était cette tension, à mon
cette
avis.
Cette tension-là qui était là,
qui a créé son chemin. Et maintenant, quand je regarde mon chemin avec un peu de recul, je vois que c'est aussi comme ça. C'est un dialogue entre les besoins un peu égoïstes, en fait, d'expression, et l'idée de partager le plaisir des sons sans ego, en fait, les sons simples. Mais il y avait aussi, si je pense à mon histoire personnelle, il y avait, je me souviens un disque que j'ai écouté quand j'avais 22 ans, peut-être, qui était Marion Brown, saxophoniste américain, qui était du monde de free jazz, mais c'était quelqu'un qui était aussi très proche de John Cage, je pense. Il y avait un disque qui s'appelait l'après-midi d'une faune de Georgie, en fait. D'accord. Donc le titre, c'est basé sur le titre de Debussy,
ouais.
Le premier
oui,
titre.
Oui, tout faune. À fait. Ouais.
Mais il, lui, il a fait une faune, mais c'est en Géorgie.
C'est en Géorgie, voilà.
Aux États-Unis, en fait.
Voilà, c'est
ça. Aux États-Unis. Et c'était un disque assez, très improvisé, très libre,
ouais.
Mais sans cette intensité
qu'on retrouve dans le free jazz.
Oui,
ou,
c'est ça.
Et là, ça vous a ouvert aussi, tiens, de se dire, tiens, c'est une manière oui. aussi d'aborder les choses.
Oui, c'est ça. Ça réunit deux univers. Et puis, ça restait dans ma conscience très longtemps, ça. Et puis, voilà.
Et j'aime bien d'ailleurs ce que vous dites à un moment donné. Finalement aussi dans votre démarche et dans ce qu'on vient un petit peu de dire, c'est une relation entre le créateur et l'observateur qui s'établit par l'intermédiaire de l'objet.
Absolument.
Ça, je trouve que c'est extrêmement important. Alors,
oui, l'objet, c'est le déclencheur pour la relation. Ouais,
c'est ça. Et absolument. Là, on voit que c'est moins le désir humain pour le désir humain, mais c'est comment l'écoute aussi développée, la rencontre avec un son. On évoquait tout à l'heure de scier l'arbre et puis il se passe quelque chose. Et là, du coup, il y a quelque chose qui se déclenche, l'observation. Mmh. Et en même temps, à partir de cette observation, va se déclencher une imagination, va se déclencher une envie peut-être, à partir de cette imagination, d'aller plus loin, de rencontrer cette chose. Et jusqu'où elle va m'emmener dans l'acte de création, finalement.
Oui, c'est ça. Et puis, moi, j'aime bien l'idée qu'en fait, à un certain niveau, les artistes sont timides aussi.
C'est vrai.
Évidemment, ils ont un extérieur qui communique avec, qui doit communiquer avec le monde. Mais quand même, il y a quelque chose... On est timide parce qu'on a envie de partager son intérieur, en fait. Et on n'est pas sûr que son intérieur sera apprécié par les autres. Mais on espère qu'il y a un lien commun entre notre intérieur et l'intérieur des autres, en fait. Donc on expose l'intérieur.
Tout à fait.
Et c'est ça qui nous fait timide aussi, parce que c'est une exposition.
Résonance sur Radio B, troisième édition Naturellement Art, Nature, Singularité, le murmure des feuilles, rencontre avec Wilmenter. Alors nous poursuivons notre émission spéciale, premier volet de notre série d'émissions consacrée à la troisième édition de Naturellement Art, Nature, Singularité, qui accueille sur trois territoires, le canton de Genève, les départements de la Haute-Savoie et de l'Ain, sur trois sites, les jardins de la Fontaine, Fondation Trajet à Troisnex, le pôle Land Art départemental de la ferme de Chausal et le parc de la Madeleine à Bourg-en-Bresse, trois artistes, Marc Limousin, Paul Payet et Will Menter. Alors nous évoquions, peut-être on peut parler aussi un petit peu de ce qu'on vient d'entendre justement, Will Menter. Ouais. Et ça me fait penser aussi à une chose que vous disiez aussi, que vous avez écrite également, dans l'idée que laisser les matériaux dans un état proche de leur état de base,
oui,
et vous les persuader en douceur de produire des sons complexes. Vous cherchez finalement à ce que ceux-ci, en quelque sorte, parlent d'eux-mêmes.
Oui.
Et je trouve que, oui, dans ce qu'on vient d'entendre, c'est un petit peu, sans parler d'illustration, le terme n'irait peut-être pas bien,
oui,
mais c'est ce qu'on a vécu finalement en écoutant.
Oui, c'est ça, parce que cette pièce « Short Sharp Shower », qui en français, qu'est-ce qu'on a dit, vive...
Alors, brève, vive, averse.
C'est ça. donc, c'était fait avec une de mes sculptures, qui s'appelle Rain Songs, la sculpture. Et cette sculpture, c'est 9 plaques d'ardoise montées sur une structure sur un bassin. Mm-hmm. Avec un tube de résonance en terre cuite en dessous chaque plaque d'ardoise. Et puis, il y a un système de goutte à goutte qui dépose les gouttes d'eau sur les ardoises. Oui. Et quand j'installe comme sculpture, c'est juste ça. En fait, il y a des 9 gouttes
qui, chaque
goutte fait bim, boum, boum, boum. Et l'autre fait dun, 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 dun. Donc chaque, il y a 9 vitesses différentes.
C'est ça, qui se superposent les unes aux autres.
Oui, c'est ça. Donc les mélodies qui arrivent sont aléatoires, en fait, parce que chaque vitesse...
On ne peut pas prévoir totalement ce qu'elle va être et comment
quand
les gouttes vont réagir.
Il y a une gamme de possibilités qui changent.
Ouais.
Mais pour ce morceau qui était un morceau enregistré, en fait...
Ouais.
En ce cas, j'ai enregistré chaque goutte séparément, en fait.
D'accord.
J'ai lancé une ardoise, une plaque d'ardoise à la fois, avec une goutte, et puis avec sa propre vitesse. Et après, donc j'ai fait 9 enregistrements séparés. Et puis après, je l'ai retravaillé en studio, en fait, pour créer la
complémentarité et créer le morceau en lui-même.
Donc c'est une évolution de la sculpture. C'est pas la sculpture pure, en fait.
C'est ça.
Et donc, c'est ça, ça devient.
Il y a un travail compositionnel qui vient.
Oui.
En plus, en tout cas, pour l'enregistrement.
Oui, oui. Et j'ai même transformé un petit peu les sons pour qu'il y ait plus de notes longue durée, en fait. Et un peu j'ai ajouté de.
Un peu de reverb.
De reverb, oui. Mmh. Donc, mais. Avec finesse, j'espère, en fait. Donc,
complètement.
Oui.
Mais c'est ce qu'on sent aussi, et ça va permettre peut-être de continuer notre entretien autour de ces éléments-là. On sent aussi beaucoup de douceur, on sent beaucoup de finesse dans votre manière d'être et dans votre manière de faire.
Oui.
Et je trouve effectivement que cet état d'esprit qui vous anime, et je dirais même également l'humanité et le rapport au monde, finalement.
Oui.
Je souhaiterais effectivement qu'on approfondisse un petit peu cela. Et pour ce faire, je voudrais citer certains de vos propos, et notamment ceci. Alors, vous dites, par exemple, « Je préfère penser aux sculptures comme un intermédiaire grâce auquel nous pouvons partager nos idées sur l'humanité et sur notre manière d'être au monde. Elle donne une idée de la manière dont une autre personne pense et ressent les choses. Ceci est mon monde. Je vois le monde comme ça. J'entends le monde comme ça. Entendre ce son, voir cette forme, m'aide à être plus conscient de ça. Produire du son, créer cette forme, m'aide à imaginer. »
Oui.
Et là, on sent vraiment quelque chose de très fort, tant sur le point de vue de la relation à l'autre, et puis de cette inscription à l'autre dans cette humanité, dans ce monde tel qu'il est aujourd'hui.
Oui.
Et ça, on sent, c'est quelque chose de très fort aussi dans votre démarche.
Je pense, c'est ça, j'essaie de définir un petit peu mon processus intérieur, en fait. Et puis... je ne sais pas, en fait, C'est aussi l'énigme de la condition humaine que nous sommes tous pareils, mais nous sommes aussi tous différents.
Exactement. En fait.
Et puis on explore c'est quoi exactement la façon unique de chaque personne, mais en trouvant cette façon unique, on arrive à bien comprendre qu'on est tous pareils aussi.
Aussi.
Ouais. Et puis. Je ne sais pas c'est un espoir de partage en fait et puis je ne sais pas oui comme j'ai dit j'ai pas une expérience typique par exemple parce que j'ai habité beaucoup à la campagne et c'est pas typique maintenant mais quand même je pense que c'est bien implanté dans notre conscience partagée, en fait, cette relation avec la nature. Et puis, je pense que c'est quelque chose que peut-être nous manque dans la vie urbaine. Moi, je ne sais pas, parce que c'est moi qui dis ça, mais il y a peut-être plein de gens qui sont très contents
de ça.
Oui, voilà.
Ça me fait rebondir justement à l'écrivain et philosophe aussi Édouard Glissant, pour rebondir à un moment donné de ce que vous venez de nous dire, où quand il évoque la relation, justement, la pensée de la relation, écrit-il, elle distingue entre des différents pour mieux les accorder.
Voilà, c'est ça que j'essaie de dire. Il le dit mieux que moi.
Ah, c'est chacun avec ses mots, là aussi.
Oui, oui, bien sûr.
Et puis aussi, là, en avançant un petit peu dans sa réflexion, dans ce que ça met en mouvement, effectivement, le fait de côtoyer l'autre, le fait aussi de ce que je trouve aussi important dans la démarche pour vous, c'est que du coup, ça déclenche le processus intérieur aussi de qu'est-ce que je suis, de qu'est-ce que je peux être dans ce monde, quelles relations je peux aussi avoir avec les autres, et du coup, qu'est-ce que ça met en branle finalement en moi-même. Et il écrivait ceci, je change pour échanger avec l'autre, sans me perdre pourtant, ni me dénaturer.
Oui.
Et là, je crois qu'aussi, il y a quelque chose d'important, là aussi, là-dedans. Ma relation à l'autre ne fait pas que je me mute complètement et je deviens tout autre chose, mais voilà, c'est cet équilibre qu'on cherche.
Oui, parce que si on fait semblant, par exemple, qu'on est exactement pareil que l'autre, c'est pas très intéressant.
C'est pas très intéressant, effectivement.
C'est un peu banal, en fait. Donc, on est obligé un peu de chercher l'unique dans son personnage. Et puis... puis jouer avec ça et partager ça, mais quand même...
Essayer de trouver ce que l'on peut être de manière authentique, être vraiment ce que nous sommes, essayer de l'approcher en faisant un peu fi des choses. On sait que c'est compliqué à l'intérieur d'essayer de définir qui je suis, je vais véritablement... je peux me mentir à moi-même en fonction de ce que je fais.
Oui,
je peux être... voilà, essayer d'aller au plus juste, effectivement, de ce que je peux être. Et est-ce que ce peut être... peut être permanent, en tout cas autant faire ce peu pour trouver une juste relation avec l'autre.
Oui, c'est ça.
Et là, c'est un pari passionnant, finalement.
Oui, absolument. Il y a ce truc... vous connaissez cette pièce de Steve Reich Proverbe.
Oui.
Il utilise un texte de Heidegger, je pense.
Oui, je crois. De Heidegger, oui.
Oui. How small a thought it takes to fill a whole life. Comme une petite pensée peut remplir toute la vie. Et je pense que c'est ça, en fait. Il y a, la vie est courte, et puis on fait ce qu'on fait, on explore le plus profond possible, mais finalement, c'est une goutte d'eau dans la culture, c'est dans l'univers de l'existence humaine et de l'univers tout.
Résonance sur Radio B, troisième édition, naturellement art, nature, singularité, le murmure des feuilles, rencontre avec Wilmenter. Et là, on vient d'entendre Bourrasque.
Bourrasque, oui.
Voilà, qui je trouve finalement résonne bien par rapport à ce que nous évoquions précédemment,
oui.
Cette recherche de l'intérieur, cette approche de ce que nous sommes.
Oui.
Elle s'est fabriquée un petit peu comment, cette pièce Bourrasque?
Oui, c'est vrai que c'est bien mon intérieur.
On sent ça. Hein.
Et physiquement, il y a deux instruments présents. Ce n'est pas les sculptures en ce cas.
Oui.
Ah oui, une, c'est une sculpture. Mais l'instrument que vous écoutez d'abord, c'est ce que j'appelle ersatzophone. Mm-hmm. Donc c'est un tube en plastique avec le bec de saxophone,
ouais.
En fait. Mm-hmm. Donc disons que c'est un saxophone bricolé.
C'est ça.
Plus proche de clarinette finalement,
oui,
parce que c'est un cylindre en fait, plutôt qu'une cône.
On entend vraiment comme la couleur du chalumeau de la clarinette,
oui, absolument.
Ce côté chaleureux et qui donne vraiment ce timbre.
Oui, c'est ça. Ouais. Donc c'est un tube plastique en fait avec... 7 trous dedans, je pense qu'on joue le même principe que clarinette. Mm. Et puis, mais je l'ai enregistré 6 ou 7 fois, et chaque fois que j'ai enregistré, j'ai joué une seule note, en fait.
Mm.
J'ai sélectionné une note.
Ouais.
C'est pas loin des gouttes d'eau qu'on a déjà écouté l'autre piste. Donc, j'ai répété une note seulement. Et puis j'ai fait un montage en studio de ça. Et puis il y avait une 8e piste quand j'ai improvisé toutes les notes à peu près. Mmh. Mais chaque fois, j'ai pas écouté les autres pistes en fait. C'était juste jouer comme ça, évidemment avec une idée de la totalité. Mais
bien sûr.
En détail, j'ai pas écouté. Donc il reste un élément très aléatoire dans la relation
entre les notes. Donc la recherche d'une disponibilité pour justement accueillir ce qui peut s'y passer, accueillir ce que peut être le son, et une volonté, même si effectivement il y a une conscience peut-être d'un global qui va se construire, qui va s'imaginer, mais en tout cas dans l'instant premier, d'être le plus disponible possible à cette relation au son.
Oui. Et bien que c'est très différent d'un travail de groupe, par exemple.
Complètement.
Parce que c'est comme 6 ou 7 musiciens.
Ouais.
Mais quand même, j'ai confiance de moi-même. Donc, il n'y a aucune question que...
C'est ça.
Il n'y a pas une expression d'autre auquel je dois réagir, par
c'est
exemple.
Ça. C'est ça.
Il y a juste mon intérieur
c'est
qui
ça.
Sort.
C'est vraiment cette relation-là qui transpire au maximum et qui se construit.
Oui. Et c'est comme ça aussi quand je... Souvent dans mes concerts solo, j'utilise quelques-uns de mes grosses sculptures.
Mm.
Comme je vais faire le concert ici dans le H2M. Mm. Et là, c'est un peu ambigu si c'est moi ou si c'est moi avec
c'est ça.
Un autre être, en fait. Mm. C'est pas une autre personne, mais c'est un autre être.
C'est un autre être quand même.
Oui, oui. Et ça, mais cet autre être, c'était créé par moi. Donc, c'est un peu entre les deux, en fait.
C'est
pas un solo et c'est pas un duo, mais c'est pas un groupe. Mais donc, c'est une autre relation avec la matière, en fait, et les autres personnes aussi. Donc, je travaille beaucoup cette idée de relation avec la matière et la relation humaine entre les... Parfois avec d'autres musiciens aussi, mais
c'est ce qu'on va un petit peu sentir avec le mur des feuilles finalement, pour évoquer maintenant plus particulièrement cette œuvre qui s'est installée au sein du parc de la Madeleine, ici à Bourg-en-Bresse. Déjà, c'est l'endroit qui vous a. On a visité des lieux différents dans la cité, plus particulièrement des parcs naturels. Et puis il se trouvait que la ville de Bourg-en-Bresse avait à gérer de manière très nouvelle cet espace, parce que le nouveau palais de justice s'est construit, donc les espaces ont été modifiés.
Ouais.
Cet espace appartenait au département. Il est revenu petit à petit à la ville. Et donc c'est un espace tout nouveau pour ses habitants et pour ce lieu en lui-même. Et je dirais plus par rapport au square des Quinconces qu'on avait visité, le square de la Visitation, d'autres espaces. Celui-ci a beaucoup plus retenu votre attention.
Oui, le moment que je l'ai vu, je me suis dit, oui, c'est le mieux de tout qu'on a regardé. Mm. Et je pense qu'il y avait deux raisons. Tout d'abord, c'est plus éloigné de la circulation de trafic, etc. Mm. Donc, c'est plus calme que les autres.
Oui,
bien qu'il y avait deux ou trois lieux assez sympas, mm. mais là, on est encerclé par les bâtiments. Ça crée un espace. Oui, la circulation est audible quand même, mais ça n'impose pas. En
c'est
fait.
Ça. Elle ne vient pas s'imposer par rapport à, justement, maintenant qu'elle est installée depuis quelques jours. Voilà, ça ne vient pas dénaturer, en tout cas,
oui, c'est ça.
Ce que peut proposer l'installation au niveau musical, en tout cas. Mm.
Et puis après, il y a ce petit structure déjà existante au centre. Presque oui. au centre du parc, mm. qui est une espèce de... Je ne sais pas comment décrire ça, mais ce n'est pas une chapelle, c'est une petite...
Oui, puisque je crois qu'il y avait une Sainte Vierge au milieu, maintenant il n'y est plus, mais...
Oui, donc c'était une chapelle. Alors,
voilà, un petit endroit, en tout cas, particulier à l'intérieur du parc, qui était d'ailleurs tout entouré de maraîchage à l'époque, c'était cultivé, puisqu'on était dans un hôpital psychiatrique. Les habitants de Bourg-en-Bresse, pour ceux qui sont là depuis longtemps, le connaissent. C'était quand on évoquait la Madeleine, c'était évoquer cette institution psychiatrique qui accueillait différentes personnes. Aujourd'hui, voilà, il a changé de destination, il n'a plus cette... Mais il y a aussi encore beaucoup de choses présentes, bien évidemment. Oui.
Y compris des arbres
tout à fait.
Mûrs, en fait.
Ouais. Oui,
les gros arbres, en fait.
Voilà. Donc, arbre nous ramène au bois. On évoquait ça tout à l'heure.
Absolument.
Et le bois est quand même au cœur, je dirais, du sujet.
Oui.
On va rappeler peut-être pour nos auditeurs aussi que la thématique de cette troisième édition de Naturellement a été choisi et celle-ci est l'air. Alors donc du coup, il y avait le lieu bien évidemment, et en même temps il y avait cette thématique effectivement qui vous était imposée et qui devait être un autre élément finalement à prendre en compte pour essayer d'imaginer ce que cela pourrait être.
C'est intéressant, oui, on parle des éléments comme ça parce que finalement, oui, on nous dit qu'il y a les quatre éléments traditionnels, l'air, le feu, l'eau, etc. Et puis, mais quand même, dans d'autres cultures, il y a bois, et le bois est presque considéré comme un élément. Mm. Et dans mon expérience personnelle, je peux bien dire que le bois, c'est un élément pour moi. Mm. Donc, pour cette sculpture, j'ai réuni les deux éléments, le bois et l'air, en fait. Et c'est juste pour décrire un petit peu la structure physique de la sculpture. C'est un petit peu comme un pergola, en fait. Il y a quatre poteaux en chêne implantés dans la terre du parc, d'une hauteur de 3,50 m. Et puis, suspendu de cette structure de pergola, il y a 180 petits morceaux de bois suspendus sur les ficelles, en fait. Et c'est à ce moment-là que l'air intervient, parce que c'est le vent qui les fait s'entrechoquer, qui les met en mouvement. Et le son, ça arrive avec le mouvement d'air qui touche les feuilles de bois.
C'est ça, les feuilles de bois. Pour ça, le murmure des feuilles,
c'est de penser
le bois comme des feuilles. Et comme on entend l'air justement dans les arbres, là, c'est l'air qui vient caresser, mettre en mouvement.
Donc c'est un principe connu, en fait.
C'est ça. Et ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que... Alors, bien sûr, il y avait une thématique par rapport à ça. On y viendra aussi dans quelques instants. Mais ça a permis à plein de personnes de participer. Et donc, ces petites lamelles de bois, feuilles de bois, elles ont toutes été imaginées à partir de l'humain.
Oui,
des constituants humains, des membres de certaines personnes.
Oui, c'est ça.
Parce que c'est fort aussi comme idée.
Oui, c'était important pour moi, si je travaille avec un groupe ou trois groupes en ce cas, qu'il faut qu'il y ait une contribution réelle à la création de l'objet. Mm. Et bien que c'est mon idée, la conception, c'est moi qui l'a fait.
Bien sûr.
Et j'ai réfléchi sur comment le groupe peut contribuer. j'ai pensé à... Excuse-moi, je prends un petit...
Oui, pas de souci. Donc du coup, à essayer de faire que la construction de chacune de ces petites lamelles, elle soit réalisée soit à partir de l'avant-bras, des mains.
On a mesuré
l'individu.
Oui,
quoi,
chaque
personne
avec un partenaire.
C'est ça.
A mesuré entre le cou et la main. Entre le coude et la main, excuse-moi.
Voilà.
On n'a pas utilisé le cou, en fait.
Ça aurait été possible.
Entre le genou et le sol.
Voilà.
La largeur ouverte de la main.
Ouais.
Et la largeur fermée.
Fermée de la main.
De la main. Qu'on a utilisé pour la largeur des bouts de bois. Et puis, même la grandeur de chaque personne. Parce que moi, j'ai beaucoup d'expérience de travailler avec les bouts de bois. Et la grandeur de chaque personne, c'est trop long pour un bout de bois.
C'est
donc
vrai.
Donc on l'a divisé en trois.
Divisé en trois.
Mais quand même, on a gardé l'idée qu'il y a
c'est
des
ça.
Grandeurs différentes de chaque personne. Et puis, donc il y a une petite signature de chaque personne.
C'est ça.
Avec ses mensurations, en fait, des trucs. Et puis, et c'est aussi un indice global qu'il y a une relation forte entre les dimensions de mes sculptures et le corps humain, en général, en fait. Donc, et puis, et ça s'est très bien passé avec les groupes. Ils étaient contents de mesurer les corps. Ils ont coupé tous les bouts de bois. Ils ont percé, ils ont attaché les ficelles. Et heureusement, parce que il y a 180 à faire. Donc, si je fais tout moi-même, ça fait, énormément du temps, mais c'était très agréable de travailler avec les trois groupes qui sont engagés profondément.
Oui, très complètement.
Processus.
C'est là où on peut rapprocher aussi un peu dans les fondements du dispositif, naturellement art, nature et singularité, dans le fait où, et dans le cahier des charges, puisqu'il y avait cahier des charges, demande aussi à ce que l'artiste puisse prévoir que des personnes en situation de handicap mental, en l'occurrence, puissent en tout cas participer le plus possible à l'élaboration à la réalisation aussi de l'œuvre. Donc du coup, il y avait aussi toute cette partie-là et nous avons eu les résidents de la Fondation Trajet, des résidents de l'ESA de Chosal, de la ferme de Chosal qui sont venus ici et les musiciens des percussions de Tréfort qui dépendent justement de l'ESA de Tréfort, de la DAPI de l'Ain également. Et donc c'est l'ensemble de ces personnes, l'ensemble de ces mensurations des uns et des autres qui ont permis d'élaborer les 180 feuilles. Et là aussi, c'est fort au niveau de l'humain, dans ce qu'on évoquait tout à l'heure, le rapport d'humanité, le rapport à l'autre, et dans des choses simples, justement, où c'est vraiment une partie de chacun qui se trouve effectivement intégrée dans cette partie collective.
C'est ça, oui. Et finalement, après l'œuvre existe, il n'y a pas une participation directe du public parce que les bouts de bois sont en haut.
C'est ça.
Et c'est voulu en ce cas que c'est le vent qui le fait bouger. Mais quand même, il y a une relation entre chaque corps. On écoute avec le vent et on regarde avec les mouvements des bouts de bois. Il y a la relation. Normalement, le public se met à l'intérieur, de la sculpture avec les bouts de bois en dessous de la tête. Donc, bien qu'ils font pas un geste conscient, c'est pas comme jouer un instrument.
Tout à fait.
Mais quand même, ils s'impliquent dans l'action de l'instrument, en fait.
Et c'est ça qui est aussi intéressant, je trouve, dans la démarche, finalement, de l'œuvre Le murmure des feuilles, c'est que du coup, elle convie à une expérience de l'écoute, à revisiter qu'est-ce que peut être l'écoute pour chacun d'entre nous et chacun des visiteurs futurs.
Oui.
Qu'est-ce que c'est qu'écouter ? Il faut que je sois disponible pour écouter. Donc là, on retrouve des éléments dont on disait tout à l'heure, se chercher de l'intérieur, ça oblige à du lâcher prise, ça oblige à prendre conscience un peu de mon environnement, du monde dans lequel je suis.
Oui, absolument.
Et c'est une invitation à tout cela. Finalement, elle nous emmène très loin, cette structure dans ce rapport à soi, mais aussi dans ce rapport au monde et à ce qui nous environne.
C'est ça. Donc, ça déclenche quelque chose, j'espère. Et puis, ça pourrait déclencher une espèce de méditation dans certains gens. C'est pas imposé
tout à fait.
Qu'on fait ça, mais ça peut. Et puis, Autre moment, c'est s'il y a un vent fort, par exemple, ça fait un bruit énorme qui est aussi intéressant et excite. Ça pourrait exciter certains gens aussi.
Oui.
Et puis, il y a quelques-uns qui préfèrent ça.
Et d'autres pas du tout.
Il y a quelques-uns qui préfèrent la façon un peu contemplative, méditative.
Donc, du coup, c'est essayer d'amener, finalement, écouter et accueillir les sons comme ils viennent.
Hein, oui.
et leur prêter le sens qui peut être le leur, finalement.
Oui, c'est ça.
Il y a aussi ça, c'est-à-dire, du coup, il y a les événements que vous décrivez, mais du coup, comment je peux accueillir ces événements-là? Comment je peux ne pas les surinterpréter, mais tout simplement essayer de peut-être les vivre et de ressentir peut-être ce qu'ils me provoqueront?
Oui, absolument. Oui, oui. Mmh. C'est ça, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de notre... C'est ça qu'on a commencé à parler de ça au début cette émission, mais on essaie d'imaginer, en fait.
Ouais,
ça fait partie de la condition humaine qu'on essaie d'imaginer l'intérieur des autres. Et il y a plein d'indices, mais finalement, on ne sait jamais vraiment.
Radio B, troisième édition de Naturellement Art Nature Singularité, le mur des feuilles, rencontre avec Wilmenter. Et là, Wilmenter, on entend aussi la Mbira, alors on peut l'appeler aussi la Senza, le nom varie bien sûr un peu suivant les régions africaines.
Oui, c'est ça,
mais c'est très bon.
Africain qui est partout en Afrique, à peu près, qu'on appelle aussi piano à pouce.
Piano à pouce aussi, oui.
C'est un instrument, celui-ci j'ai fabriqué moi-même, mais c'est un instrument dont j'ai étudié la culture depuis longtemps aussi, parce que ça fait partie de mes influences musicales, en fait. Forcément la musique de Zimbabwe, où il y a une version...
Oui.
Très évolué de cet instrument. Donc, je suis. J'ai voyagé plusieurs fois en Zimbabwe pour étudier l'instrument.
Étudier ça.
Et pour rencontrer les musiciens, etc. Mais ce piece-là, j'ai improvisé en solo avec cet instrument que j'ai fabriqué. Donc, c'est un instrument de musique, c'est pas une sculpture sonore,
c'est ça.
En fait. C'est...
Mais ça me fait évoquer un peu peut-être ce que vous avez essayé d'imaginer, justement, toute cette mélodie qui se développe, un peu la mélodie de bois, aussi qui a pu se développer lors de la performance autour du mur, justement, du murmure des feuilles, où on avait aussi dans les propositions qui se sont faites avec les percussions très fort, cette répartition aussi aléatoire à certains moments donnés dans l'espace, dans le mouvement, qui pourrait nous faire penser aussi à justement cette Mbira aussi également.
C'est pas loin, c'est vrai. Et puis et même on pourrait, on a fait ce morceau avec les percussions de tréfonds, quand chaque personne avait deux bouts de bois qu'ils tapent ensemble, comme un instrument très simple de percussion, mais on pourrait dire que c'est un xylophone primordial, en fait.
Oui, complètement.
Ou un marimba, qui est le mot africain pour xylophone. Mais, et puis on peut dire que le Mbira, c'est presque comme... comme une quinzaine de bouts de bois, parce qu'il y a chaque lamelle qui fonctionne séparément des autres. Mais donc c'est proche de l'origine de musique, à mon avis, parce que c'est une forme qui travaille avec. Comme il y avait une autre citation que vous avez utiliser déjà, mais cette idée de commencer avec le simple, mais quand même créer une forme complexe à l'écoute, en fait.
Tout à fait.
Avec les moyens très, très simples, en fait.
Et ça, c'est extrêmement important. Hein. Et en plus, cette forme, lors de la performance, a évolué aussi d'un espace très centré jusqu'à une exploitation de la spatialisation.
Oui,
et le public étant pris justement dans cette cette musique qui se développait autour d'eux, à l'intérieur d'eux, qui revenait. Voilà, il y avait toute une spatialisation du son qui enveloppait finalement.
Oui, j'étais très content finalement avec ce façon du morceau, parce que on n'a pas pu répéter avec le public. Toutes les répétitions étaient...
T'es sans public.
Sans le public, avec la sculpture et le parc. Mais,
c'est ça.
Et les autres conditions du vent aussi. On ne savait pas s'il va...
Qu'est-ce que ça donnerait
ou non. Mais finalement, la relation entre les percussions et le public était très bien. Et
tout puis, à fait. Très belle.
Mais c'était aussi parce que les percussions, ils ont... C'est les musiciens qui font les concerts. Ils savent comment créer une relation avec le public aussi.
Tout à fait.
Donc
juste.
ils n'avaient pas peur de circuler
parmi les gens du
public.
Ouais, complètement.
Et même le public était content d'avoir cette intimité, je pense.
Oui, parce que ça a créé. On évoquait tout à l'heure que la sculpture allait provoquer une écoute interne, donc là aussi proximité. Et dans cette performance, voilà, c'est quelque chose qui a permis aussi de nouer à certains moments donnés un musicien passant, frôlant l'individu. Donc du coup, cette relation de très grande proximité, justement, et d'une musique non pas extérieure, comme on disait tout à l'heure, mais peut-être aussi déjà de sentir une musique de l'intérieur qui pouvait leur appartenir déjà aussi un peu.
C'est ça, oui. On espère et on imagine.
Espère.
Et puis, mais j'avais des bons retours après le concert. Et je pense sûrement ça a fonctionné comme ça pour certains. Peut-être la plupart. J'espère que c'était la plupart aussi.
Je pense. En tout cas, nous arrivons au terme de cette émission. Et chers auditeurs, vous pouvez vous rendre, on ne peut que vous encourager justement, à aller vivre personnellement cette aventure en allant au parc de la Madeleine à Bourg-en-Bresse, et ceci jusqu'au mois d'octobre prochain, pour venir expérimenter, découvrir cette installation, le murmure des feuilles de Winmenter. Nous remercions également la direction des affaires culturelles, Laetitia Carnero-Gauthier, responsable du service Action culturel et le service des jardins de la ville de Bourg-en-Bresse pour avoir également facilité la mise en place de ce projet dans le parc de la Madeleine, ainsi que le conseil départemental de l'Ain pour son soutien. Je vous rappelle aussi également, si vous avez envie de poursuivre cette exploration et suivre le développement complet du projet Naturellement Art, Nature et Singularité, que vous pouvez vous rendre en juin prochain, les 3 et 4 juin, dans les jardins de l'association Trajet Atronex, à Troinex en Suisse, où sera inaugurée également l'œuvre plastique de Paul Payet. Et puis, notre émission Résonance sera également présente dans ces jardins, puisque nous enregistrerons ferons le deuxième volet de ce triptyque consacré à cette troisième édition de Naturellement, Art, Nature et Singularité. Voilà, donc, chers auditeurs, je vous remercie une nouvelle fois. Vous pouvez bien sûr vous rendre sur le site également de Naturellement pour avoir plus d'informations et de précisions quant à ces moments d'inauguration, à ces lieux, aux œuvres et aux artistes. Et vous pouvez vous rendre sur le site suivant www.rencontre-naturellement.com. Merci Will Minter de votre présence.
Merci à vous, c'était un grand plaisir de partager tout ça avec vous, avec le public que je ne vois pas.
Voilà, même certains d'ailleurs, je pense à certaines personnes des habitués du parc ou du voisinage, sont venus un peu tous les jours
oui.
Se demander qu'est-ce qui se passe.
Oui, absolument, pendant le processus, on a développé une petite
relation, là
relation
aussi.
Avec quelques publics. Il y avait et quelques chiens aussi.
Aussi.
Parfois, il y avait plusieurs chiens qui font leur propre musique aussi.
C'est ça.
Mais il y avait une femme avec un chien en particulier qui a passé
régulièrement.
Presque toutes les jours. Et on a discuté avec elle. Et puis, j'étais très content qu'elle ait aussi venu
au moment de l'inauguration
et le concert. Donc, c'était très satisfaisant, cette relation évoluante. En fait.
Complètement. Donc, voilà, nous sommes au terme de notre émission. Je remercie également Nicolas Galliot à la technique et à Simon Debande pour la mise en onde. Cette émission de Résonance sera rediffusée vendredi prochain de 14h à 15h, puis mardi de 13h à 14h. Vous pouvez, bien sûr, réécouter quand vous voulez et où vous voulez, aussi longtemps que vous le souhaitez, la présente émission en la podcastant sur le site de Résonance Contemporaine, www.resonancecontemporaine.org, ou sur le site de Radio B, www.radio-b.fr. Merci de nous avoir accueillis chez vous et restez à l'écoute de Radio B.